Un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel on annonce aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, et disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Il y a toute une progression, maintenant, cet ange qui annonce encore des jugements. Là, les versets qu'on vient de lire, ce sont des choses symboliques, si vous voulez, on a déjà lu. Le prochain, le deuxième ange, annonce la chute de Babylone. Le premier, c'était plutôt adressé aux inconvertis. Le deuxième ange annonce la chute de Babylone, qu'on va commenter beaucoup en plus de détails quand on arrivera au chapitre 17 et 18. Un autre ange, le second ange, suivi en disant, elle est tombée Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la pureur de son impudicité. Nous verrons que Babylone symbolise tout ce qui est péché dans le monde. Le troisième ange annonce l'évangile, le bonheur des morts en Christ, et le retour de Jésus pour moissonner. Et c'est surtout cet aspect de moisson qui occupe le reste du chapitre 14 et puis ce qui suit au chapitre 15 et 16. Verset 9, un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la pureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont ni repos, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque soit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en de Jésus. Il n'y a rien là-dedans que nous n'avons pas déjà vu, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça se répète alors? Eh bien parce que Dieu va annoncer la dernière série, pas série du jugement, c'est la troisième des trois. Et ce sont des jugements encore plus graves que ceux que le monde aura connu pendant les deux premiers siècles. Mais Dieu l'annonce d'avance. Les gens ont l'occasion, s'ils veulent, de l'éviter, de se convertir. Ça ne tombe pas sur eux sans qu'ils ne soient avertis. Parce que Dieu est toujours juste, n'est-ce pas? Et c'est un thème sur lequel je reviendrai dans quelques instants. Et puis il dit, j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Si Jésus revient ce soir, ou s'il tarde encore quelques années à venir, si nous restons fidèles, nous mourrons dans le Seigneur. Et nous serons heureux, bénis, éternellement. Quelle promesse! Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ça, c'est aussi joli. Hein. Frères et sœurs, il y a du repos qui nous attend. Vous êtes content?
Oui, amen.
On dit que, je sais que je ne suis pas le seul ici, les pensionnés ont tout le temps. Si c'était vrai seulement, n'est-ce pas? Moi, je trouve que ma vie de pensionné est aussi remplie que quand je travaillais. Mais, patience et courage. Au ciel, on a l'éternité pour se reposer. Et quel repos au paradis. Ils se reposent de leurs travaux.
On se reposera pas de ses adorations.
Mais, et ceci, c'est un point quand même, une question, je pense, qui pourrait être intéressante.
Ils se reposent de leurs travaux. Est-ce qu'on travaille au ciel?
Il faut quand même quelqu'un qui nettoie, qui cuisine. Donc, écoutez, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais, on peut travailler et aimer le travail qu'on fait, n'est-ce pas? Ou alors, à ce moment-là, le travail n'est pas un fardeau, au contraire, c'est une joie, c'est un plaisir. Et je me dis que si on a ce travail-là, au ciel, ce sera bien. Par exemple, nous savons qu'au ciel, il y a beaucoup de musique. Donc, des musiciens qui vont travailler pour jouer tous ces instruments. Mais ils vont pas considérer ça comme un fardeau. N'est-ce pas? Ça va être une joie, ça va être un plaisir. Les œuvres les suivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains ont dit, eh bien, le métier que vous avez sur la terre, vous l'aurez au ciel. Vous l'aurez seul, vous allez aussi nettoyer, cuisiner, etc. Je ne pense pas que c'est ça que ça veut dire. C'est que nos œuvres, et ce n'est pas l'Apocalypse qui nous le plante ça, nous le savons déjà, à l'éternité seront récompensées, n'est-ce pas? Notre récompense dépendra des œuvres qu'on aura fait ici sur la terre. Et puis j'en dis ceci. Je regarde et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main, une faucille tranchante. On a déjà vu celui qui est assis sur le trône avec sa couronne d'or. Il n'y a pas de secret pour savoir de qui il s'agit, n'est-ce pas? On parle ici de nouveau du Seigneur Jésus. Mais maintenant, on le voit avec quelque chose en plus. Il n'a pas seulement sa couronne d'or, il a dans sa main une faucille tranchante. Qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau, il faut le lire avec des lunettes juives d'il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on ne maçonne plus avec une faucille. On a des machines. Mais à l'époque, le blé, on maçonnait avec une faucille. Donc, quand on voyait quelqu'un se promener dans la rue avec une faucille à la main, qu'est-ce que ça voulait dire? Poisson. Ok? Le symbolisme ici, c'est ça. Mais, il faut le comprendre. Si j'en vois Jésus, avec une faucille à la main, automatiquement Jean fait le lien dans sa pensée. Il va venir un maçon. Il a la faucille en main, ça veut dire maçonner. Et en effet, les quatrième, cinquième et sixième anges annoncent justement cette maçon. L'heure est arrivée. Un autre ange, verset 15, sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est venue. Bien sûr, on ne moissonne pas quand le grain n'est pas encore mûr, n'est-ce pas? On sème le grain, mais il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir moissonner. Si on va trop tôt, on n'a rien, on ne récolte rien. Et maintenant, l'ange dit, et nous sommes, n'oublions pas, déjà vers la fin de la grande tribulation, l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur le trône, sur le nuée, jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. C'est un tout petit verset, mais qui contient un message énorme. Et ce message va être expliqué en détail dans le reste du chapitre et les chapitres qui suivent. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, et en lui aussi une fausse tangente. Et l'autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fausse tangente, disant, lance ta fausse tangente et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa fausse sur la terre et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et du sang sortit de la cuve, jusqu'au vent des chevaux, sur une étendue de 6000 stades. Ceci est prophétique. Et on en parlera en plus de détails après. Mais déjà, on est projeté sur la bataille d'Armageddon. Normalement, il parle ici de vendange. Vendange de raisin. Gare de raisin. Comment est-ce que qu'est-ce qu'on faisait à l'époque avec le raisin? On vendangeait le raisin qu'on mettait dans une espèce de grande cuve et on dansait dessus pieds nus, n'est-ce pas? Et le jus sortait des raisins et on prenait le jus dans des jarres, dans des espèces de cuves de jarres. Et alors commençait la fermentation et on avait du vin. Mais aujourd'hui, avec ceci, ce n'est pas du vin qu'on a. C'est quelque chose de plus ou moins de même couleur, mais c'est pas du vin, c'est du sang. Et la bataille d'Armageddon, qui est maintenant en train de se préparer, sera justement ça. Et il y aura tellement de sang, le sang sorti de la cuve jusqu'au mort des chevaux, sur une étendue de 2600 stades. Ça veut dire 320 kilomètres, à peu près. Fleuve de sang. Jusqu'au mort des chevaux. Ça fait quand même combien de litres de sang? On ne sait pas parce que on a la hauteur et on a la longueur, mais pas la largeur. Donc on ne peut pas calculer le volume. N'est-ce pas, si on pouvait calculer le volume du sang, divisé par 5, et on saurait combien d'hommes vont mourir. Ça ne nous est pas dit. Mais si vous avez un fleuve de sang, 320 km de long, jusqu'au bord des chevaux, ça fait quoi ça? Un mètre et demi? Au moins. Ça fait quand même beaucoup de millions de personnes tuées. La bataille d'Armageddon. Et la moisson de la terre, elle est déjà prophétisée dans pas mal de versets bibliques. Je ne vais pas tous les lire, ça prendrait trop longtemps. Mais je pense à la prophétie de Jésus lui-même, quand il parle de la moisson des mauvaises herbes. Jésus leur propose un parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un champ qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a du vrai? Il leur répondit qu'un ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant du vrai, vous me déraciniez en plein temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la maçonnerie, il dirait au maçonneur, arrachez d'abord les blés et liez-le là en herbe pour la brûler. Mais amassez le blé pour mon grenier. C'est une parabole prophétique de la fin des temps de cette moisson de la terre. Et cette moisson, cette vendange, ça va impliquer toutes les nations du monde, y compris Israël, dans la bataille d'Armageddon. Quelques autres prophéties qui soulignent ceci. Leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est la poison cruelle des aspics. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux, des boucs, de la graisse des reins, des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays Sodome. Les buffles tombent avec eux et les bœufs avec leurs taureaux, et la terre s'abreuve de sang. Et le sol est imprégné de graisse, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Qui est celui qui vient de ce don, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve, je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Partez-vous, et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là où Éternel fait descendre tes héros. Que les nations se réveillent, qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, c'est la vallée d'Armageddon, ça. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la prophétie, car la moisson est mûre, venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées d'Israël, et que nos yeux se rassasient au Sion. Toutes les prophéties qui parlent de cette bataille d'Armageddon qui se prépare maintenant. L'ange jeta sa poussière sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu, et la cuve fut coulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux. L'historien juif romain Joseph, il écrit. Il décrit l'invasion des Romains de la ville de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et il dit ceci, quand les Romains détruisaient Jérusalem, il y avait tant de sang que toute la ville en était remplie et l'incendie de certaines maisons en fut éteint. Vous imaginez, déjà, c'était un petit avant-goût de ce qui va se passer. Alors, maintenant, si vous voulez bien, nous allons passer au chapitre 15, et là, plusieurs thèmes qui sont introduits dans ces versets que nous venons de lire, ces thèmes sont maintenant repris un par un et développés grandement. Donc, les derniers versets du chapitre 14 nous donnent un aperçu. Et cela va maintenant être suivi de plus de détails. Donc, chapitre 15, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, et en des arcs de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, voix des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Il y a beaucoup dans ces cinq versets. Je vais essayer de vous expliquer. Donc, comme j'ai déjà dit, ces versets pointent vers Armageddon. Donc, sur quelque chose qui va s'accomplir très prochainement, mais qui est, à ce moment-ci, toujours dans l'avenir. Mais cette descente vers Armageddon s'accélère maintenant avec ce dernier série de jugements qui s'annonce. Avant que les jugements ne commencent, Jean les entend précédés par des chants au ciel. Je me demande comment ça va être, les chants au ciel. N'est-ce pas? Vous aimez chanter dans cette église, oui, hein, j'ai le compris. Moi aussi. Et quand je chante pas, quand je suis dans la voiture, je mets très souvent de la belle musique. Bien sûr, la belle musique, c'est une question de goût, hein. Mon choix de musique à moi n'est peut-être pas le choix de chacun. Non? Et alors, je me demande au ciel, moi, je suis plutôt classique dans mon choix de musique. Je n'aime pas trop la musique trop moderne avec beaucoup de bruit. Mais si au ciel, il n'y a pas de musique avec beaucoup de bruit, les jeunes ne vont pas être contents. Par contre, s'il n'y a pas de chant classique, nous ne vont pas être contents, n'est-ce pas, ma génération? Vous avez remarqué dans la parole de Dieu, il y a pas mal de chants. Je pensais aux psaumes, mais il y a des autres aussi. Mais jamais la partitude. N'est-ce pas? Sont des paroles. Je suis sûr que quand on est au ciel, on va l'aimer. Ça va être de la musique, je pense, encore plus belle que tout ce qu'on a jamais entendu. Vous croyez pas? Moi, je me rappelle pas, il y a pas longtemps, j'étais dans une église qui a une excellente chorale. Et cette chorale avait chanté pendant le culte. C'était formidable. Ça apportait une atmosphère, l'Esprit de Dieu était là dans l'église. Et quand ils ont quitté l'estrade, tout le monde les a applaudis, moi aussi, c'était bien. Et j'ai fait la réflexion, ça n'est que l'odeur, ça. N'est-ce pas? Ce n'est que l'apéritif. Il vient beaucoup mieux que ça. Et en somme, ce que ces choristes font, ce sont dans la répétition, parce que ciel, qu'est-ce que ça va être? Belle la musique là. Le signe au ciel qui annonce les jugements, bien sûr que c'est menaçant, mais en même temps, il y a un encouragement. Et il y a le confort. Parce que ce que nous allons voir maintenant ensemble introduit la fin définitive du procès judiciaire qui va finir avec tout le mal qui est dans le monde pour toujours. Je souligne cette idée de procès judiciaire. Je reviens là-dessus dans un instant. Qu'est-ce que fait un procès judiciaire? Quel est le but? C'est de mettre fin à de l'injustice. Nous vivons dans un monde qui n'est pas juste, n'est-ce pas? Nous sommes entourés d'injustice, à petite échelle, à grande échelle même, on pourrait dire à l'échelle mondiale. Et Dieu a mis déjà en marche un procès judiciaire qui va mettre fin à toute l'injustice et à toutes les terreurs et les horreurs du régime de la dette dans la grande tribulation. Avant cela, nous entendons les chants d'adoration. Chants d'adoration qui contient une notion spéciale, c'est-à-dire un accent très fort mis sur la justice des jugements. Nous, on a un peu difficile à penser à Dieu comme juge, n'est-ce pas? Pour nous chrétiens, Dieu est bon. Un juge, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, il dit, vous êtes innocent, mais parfois, il vous condamne. Et si Dieu dit, vous êtes innocent, nous disons, amen. Mais nous n'attendons pas à ce que Dieu condamne. Mais la justice ne serait pas juste si elle approuverait les choses qui sont mauvaises. Vous me suivez? Et si Dieu est juste, il va aussi bien approuver les choses qui sont bonnes que condamner les choses qui ne sont pas. Sinon, il peut être bon, mais il ne peut pas être juste. S'il ne fait que approuver les choses qui sont bonnes, mais il ne condamne pas les choses qui sont mauvaises, il est bon, Dieu, mais il n'est pas juste. Regardons ce qui se passe. Vous êtes d'accord que la sainteté et la justice de Dieu sont révélées. La parole de Dieu nous les révèle. Que la sainteté de Dieu et la justice de Dieu sont révélées pas seulement aux Juifs, mais à tous les peuples. Et sont valables pour tous les peuples. Dieu les a révélées. Dieu est aussi souverain. Et la souveraineté de Dieu sur toute la terre, que le diable ne sache ou pas, l'accepte ou pas, l'aime ou pas, la souveraineté de Dieu sur toute la terre est incontestable. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est la souveraineté de Dieu? Je vous ai déjà dit, je ne suis pas théologien, mais une définition de la souveraineté de Dieu d'un laïc, la souveraineté de Dieu veut dire il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, à qui il veut. Oui, c'est peut-être pas une définition théologique, mais c'est plus facile à comprendre. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Vous et moi, nous pensons que nous sommes souverains, mais nous ne faisons pas toujours ce que nous voudrions faire. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas toujours capables de faire ce qu'on voudrait faire. Tandis que Dieu, lui, il est complètement souverain sur toute la terre et sa souveraineté ne peut jamais être contestée. Dans sa souveraineté, il a déjà enlevé les saints pour être auprès de lui, pour ne pas devoir expérimenter toutes les terreurs de la grande tribulation. Alors les vainqueurs, nous les trouvons ici déjà devant le trône céleste. Ceux qui ont vaincu la bête, ils y adorent le Seigneur. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas encore des choses terribles qui vont venir. Et pourquoi est-ce que les choses terribles encore vont venir? Parce que le diable sait qu'il va vers sa fin. Et lui et ses bêtes s'acharnent encore plus. Mais la victoire totale, bien que encore à l'avenir, est certaine. Cela, pour nous déjà, non, c'est un énorme réconfort de savoir que même si les choses vont mal dans le monde, mais ça peut être aussi beaucoup plus personnel chez nous, dans notre foyer ou dans notre vie personnelle, de savoir que ultimement, Dieu aura la victoire. N'est-ce pas? Ça, c'est quand même quelque chose qui nous réconforte. Je parlais dernièrement avec quelqu'un, et je ne me rappelle plus tous les détails, mais on parlait sur la mort. Et il me dit, ouvre le sujet du cube. Il dit, ça c'est le pire des choses qui peut arriver. Il dit, au contraire, c'est le meilleur des choses qui peut nous arriver. N'est-ce pas? La meilleure des choses qui nous attend, en tant que chrétien, c'est la mort. J'ai une fois dit ça dans la réunion de jeunesse chez nous. Il y avait un jeune assis au premier rang qui a dit à son ami, voix basse, pour que toute la salle l'entende, ou s'il veut mourir, on pourrait lui donner une main. Bien d'avoir des cheveux. Mais ensemble, la mort, c'est la meilleure chose. J'ai déjà dit à mes enfants, quand je meurs, vous ne devez pas pleurer pour moi. Si vous voulez pleurer pour vous, ça vous devez le savoir. Mais ne pleurez pas pour moi. J'entendais un frère qui, ah oui, justement, dans cette conversation avec ce frère, on parlait de quelqu'un qu'on connaissait tous les deux, un pasteur qu'on connaissait tous les deux. Et il est mort juste comme ça. Il avait été voir une sœur qui, de son église, qui était dans un home, un pasteur déjà âgé. Il rentre chez lui, il sort de sa voiture, il tombe, et il est parti. Dans 2 ans. Je sais pas si vous l'avez connu, le frère Gopard. Dans 2 ans, il est parti comme ça. Et on se disait, ce serait bien de pouvoir partir comme ça. Qui ne signerait pas? Et le frère me disait, oui, il dit, moi j'ai toujours pensé, j'aimerais bien mourir dans mon sommeil. Comme ça, je ne suis pas conscient. Et moi j'ai déjà dit à mes enfants, si le moment de ma mort arrive et je suis endormi, s'il vous plaît, réveillez-moi. Je ne veux pas manquer ça, moi. Ça ne vous arrive qu'une fois dans la vie, hein. Il ne faut pas la manquer. Parce que c'est vraiment la meilleure chose. Les frères et sœurs, on rit. Bon, c'est bon qu'on puisse en rire. Le monde ne rit pas quand vous parlez de la mort. Mais l'enfant de Dieu, il dit, Seigneur, je viens. Je viens. Parce que pour nous, la mort n'a pas de peur. Mourir peut-être. Si mourir prend longtemps et est pénible. Mais la mort, on est même. Pas du tout. On n'a pas peur, au contraire. Pour la vôtre, pour lui, c'est beaucoup de meilleur, de loin le meilleur. Voilà. Alors, la victoire totale est certaine. Mais, elle est toujours à l'avenir. C'est vrai dans le livre de l'Apocalypse, c'est vrai dans notre vie personnelle aussi. Mais le fait que cette victoire totale est certaine nous donne du courage, même si nous passons, comme dit le psalmiste, dans l'ombre de la vallée de la mort, n'est-ce pas? On a du courage parce que on sait. J'ai eu un entretien avec un membre de ma famille en Angleterre dernièrement. Il a vivement peur de mourir. Il ne veut vraiment pas mourir. Moi, j'ai du mal. Je veux bien.
pas autant que je pense à me suicider.
Non. Dieu choisit le moment. Et personnellement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais personnellement, moi, je suis convaincu que Dieu a déjà décidé la date il y a très longtemps. Et qu'un enfant de Dieu ne meurt pas une seconde avant ou après le moment que Dieu a déterminé. On ne peut pas dire il a vécu trop longtemps ou il est mort trop jeune. Non. Un enfant de Dieu meurt au moment où Dieu dit maintenant, je te prends. Ça m'arrangerait peut-être bien et ça vous arrangerait peut-être bien si Dieu nous communiquerait cette date d'avance. Je ne pense pas qu'on voudrait le savoir. De toute façon, qu'on le voudrait ou non, il ne communique pas. Mais personnellement, je suis convaincu que quand quelqu'un meurt, ce n'est jamais un jour plus tôt ou un jour trop tard, c'est au moment que Dieu lui-même a décidé. Ces vainqueurs qui ont vaincu la bête parce qu'ils ont refusé d'accepter sa marque, ils sont au ciel et ils chantent. Et c'est intéressant, je ne sais pas quand vous chantez à l'église. Est-ce que vous faites attention aux paroles que vous chantez? Espérons. Comme on est souvent, soyons honnêtes, quand on a déjà chanté ce chant 36 fois, on le connaît par cœur, parfois, on le chante, mais sans trop réfléchir sur ce qu'on chante. Moi, je pense souvent à des personnes qui ont écrit ces chants. Et je dois confesser que parfois, je lis un chant et je me dis, ils n'ont pas beaucoup réfléchi parce qu'il n'y a rien dedans. Le contenu est tellement superficiel. Mais par contre, il y a des autres chants. Et je pense à certains chants classiques, par exemple, mais il y a aussi des chants modernes formidables, où on doit dire non seulement que celui ou celle qui a écrit ces paroles a vraiment réfléchi, mais j'irai même plus loin et je dirais qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. La dame, je pense que c'est une dame qui a écrit « Quelle amie fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, etc. » C'est quelqu'un qui, en connaissant l'histoire de sa vie, elle a vécu ce qu'elle a écrit. Elle n'a pas écrit une jolie théorie, c'est un témoignage personnel. Mais il y a une théologie aussi dans ce chant, et dans bien d'autres. La même chose dans les psaumes, et la même chose dans ces chants que nous avons dans le livre de l'Apocalypse. Il y en a plusieurs, et ici, au chapitre 15, on en a. Mais d'abord, lisons le premier verset, ou relisons le premier verset, avant d'arriver au chant. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, cet ange qui tenait sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Encore un signe. C'est étrange, mais le mot signe n'apparaît pas souvent dans le livre de l'Apocalypse. Pourtant, presque tout l'Apocalypse est des signes. Mais ici, c'est seulement la troisième fois que nous lisons signe. Les deux précédents étaient dans le chapitre 12, vous rappelez, la femme, signe, et le dragon, signe. Ici, pour la troisième fois, nous lisons signe. Et ce troisième signe, dit Jean, est grand et admirable. La femme et le dragon n'étaient pas admirables. Mais ce signe est grand et admirable. Et qu'est-ce que c'est ce troisième signe? Eh bien, les sept coupes d'or qui vont maintenant être versées pour verser les sept derniers jugements sur la terre. Sept coupes d'or de colère divine qui vont être versées sur la terre. Les dernières plaies qui conduiront à l'ultime victoire du diable et à sa chute totale. Ainsi que
la chute des bêtes, des démons, des mauvais esprits, etc. D'abord, à la bataille d'Armageddon. Et puis, définitivement, pour ce qui concerne le diable, 1000 ans après, au dernier jugement. Là, on reviendra encore beaucoup plus tard. Donc, le signe que j'envoie au ciel est grand et admirable. Et le mot admirable est un mot clé de ce qui va suivre. C'est admirable dans le sens, le texte original, admirable dans le sens stupéfiant, inimaginable. Jean a déjà vu beaucoup de choses stupéfiantes, n'est-ce pas, inimaginables, mais maintenant, il dit ce signe-ci, grand et admirable. Les sept anges avec les sept derniers jugements qui mettent fin à la colère de Dieu, en beaucoup de choses, ces jugements sont très comparables au jugement des sept trompettes, au point même où certains pensent que ce sont les mêmes jugements qui sont seulement répétés. Mais il y a quand même une différence importante. Même si les jugements se ressemblent, peut-être que vous vous rappelez le jugement des sept trompettes porté sur un tiers de la terre. Et n'était pas les derniers jugements. Ici, il s'agit des derniers jugements, et nous allons voir qu'ils portent sur toute la terre. Ce n'est pas deux fois la même chose. C'est des choses similaires. Ces anges ont attendu. Ils ont attendu pendant les jugements des sceaux et les jugements des trompettes, mais maintenant c'est l'heure. Et cela avait déjà été déclaré au chapitre 10, au jour de la voix du septième ange. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont beaucoup prophétisé sur ces derniers jugements mondiaux. Vous vous rappelez, les prophètes s'adressaient surtout à Israël. Ils étaient des prophètes pour Israël. Et Israël a toujours eu difficile à visionner le monde entier. Dieu était leur Dieu, à eux seulement. Et leur Dieu s'intéressait. Oui, il était le Dieu du monde, mais il s'intéressait pas tellement aux autres, il les laissait faire, il était surtout pour Israël. Les Juifs n'ont pas eu facile à voir plus grand, plus large. Et les prophètes, quand ils ont prophétisé, les Juifs ont toujours pris leur prophétie pour eux, surtout les bénédictions. Ils avaient plus de difficultés avec les malédictions, mais ils ont toujours pris ces bénédictions étaient pour eux. L'Église, dans son histoire, a souvent fait une grande erreur. Ils ont dit, j'ai déjà discuté ceci, mais juste pour vous rappeler, l'Église a dit, ah, Dieu a rejeté Israël parce qu'ils ont crucifié Jésus, alors maintenant, c'est l'Église qui reçoit toutes ces promesses. Mais l'Église n'a pas été honnête, parce qu'on a bien voulu recevoir les promesses de bénédiction, mais pas les promesses de malédiction. De toute façon, l'Église n'a jamais remplacé Israël. Et aujourd'hui, l'Église ne remplace pas Israël. Mais quand nous lisons cette prophétie, et surtout les prophéties du dernier temps, il est clair que, bien qu'Israël soit concerné et impliqué, l'implication est plus large. Et les prophètes, sans savoir exactement la portée de ce qu'il disait, parce qu'il prononçait des choses qu'il ne connaissait pas, néanmoins, ils ont prophétisé pas seulement sur Israël, mais souvent aussi sur le monde entier. Ce mystère de Dieu, l'accomplissement de sa justice, s'annonce maintenant. Et
Quand les sept coupes d'or auront été versées, le septième ange, donc on sort le 21e ange, hein, le septième ange du troisième série, va dire « c'est fait ». Tout comme Jésus, à la croix, a crié « c'est accompli ». Il arrive un terme. Encore une fois, le fait que ces anges soient à sept exprime la totalité et la perfection de Dieu. Et ça veut dire que Dieu n'est pas seulement parfait en son amour, mais qu'il est aussi parfait dans sa justice. Je reviens là-dessus maintenant. Il est parfait quand il juge. J'ai été pendant 10 ans au monnier de prison. Et dans ce travail, il m'arrivait parfois de devoir être au tribunal. Et parfois d'entendre des juges prononcer des verdicts, pas sur moi, hein, mais sur mes clients. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler aux condamnés après leur jugement. Et d'habitude, presque toujours, le condamné trouvait que le jugement n'était pas juste. Le juge n'était pas juste. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si je reçois une petite amende, hein, dernièrement, je dois confesser mon péché. J'ai reçu une amende parce que j'avais stationné trop longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? Le policier est passé, petit papier sur le pare-brise, 50 euros. Je disais à mon fils, c'est pas juste. Il y a tous ces meurtriers qui se promènent librement, et eux, ils ont le temps de me donner un amende de 50 euros, juste parce que j'ai stationné un peu plus longtemps que permis. C'est pas juste. Mon fils m'a dit, papa, si t'as péché, tu dois payer le prix. Je sais dans mon cœur qu'il a raison, je ne vais pas lui donner raison, mais je sais qu'en somme il a raison, non? Parce que ça s'appelle la justice. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous n'avez pas dû payer l'amende, mais le principe, vous l'acceptez. Est-ce que dit la parole de Dieu? Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, mais sans iniquité. Il est juste et droit. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes et que tes jugements sont équitables. Jésus dit, si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Nous voyons Dieu ici, Dieu qui est en colère. La colère de Dieu, une expression qui revient plusieurs fois dans l'Apocalypse. Est-ce que le Dieu que nous servons en tant que chrétiens, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est amour, est-ce qu'il est capable de colère? Difficile, n'est-ce pas? Ça pose un problème. Si nous ne tenons pas quelque part dans nos pensées le fait que la colère de Dieu, même quand elle est 100% justifiée, et elle est toujours 100% justifiée, il ne la manifeste pas envers les siens
qui se repentent de leur péché.
Un juge peut trouver quelqu'un coupable qui mérite donc d'être puni, mais le juge peut encore le pardonner. D'accord? Le pardon ne veut pas dire que la personne en question n'est pas coupable. Ça n'enlève pas la culpabilité, mais cela enlève la punition. Et quand Dieu nous pardonne, nous et moi, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas coupable, n'est-ce pas? Si nos péchés sont pardonnés, c'est que nous avons péché, d'accord? Sinon, il n'y aurait rien à pardonner. Si Dieu nous pardonne, c'est que nous avons péché. Nous sommes coupables. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on mérite de mourir pour ses péchés. Mais, la grâce de Dieu enlève la punition. N'enlève pas le péché, n'enlève pas la culpabilité, mais enlève la punition. Et nous devons voir la colère de Dieu, maintenant, dans le passé, mais aussi dans l'avenir, comme ça. Ceci pose un problème, un dilemme pour l'homme, et aussi pour les chrétiens, pour beaucoup de chrétiens depuis des siècles. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est parfaitement en amour, ça nous acceptons tous, parfait en justice, plus difficile à comprendre, mais quand même aussi vrai, comment est-ce que ce Dieu, alors, peut permettre, et dans ce cas-ci, même être l'auteur de la colère, de la punition? Nous avons des cas dans la parole de Dieu où nous voyons des gens souffrir, mais c'est le diable qui les fait souffrir. Hein? Un exemple, l'histoire de Job. Il souffre énormément, le pauvre. Mais les souffrances ne viennent pas de Dieu. C'est le diable qui lui vole toutes ses richesses, tue ses enfants, lui enlève, lui vole sa santé, tourne son épouse et ses amis contre lui, etc. C'est le diable. C'est clair quand on lit le livre de Job. Nous acceptons. Dieu n'en est pas l'auteur. Mais il le permet. Les chats dans la chair de l'apôtre Paul, la même chose. On dit, c'est le diable qui envoie cette chair dans la chair pour me souffrir. C'est pas Dieu. Mais Dieu le permet. Parce que quand Paul prie trois fois, s'il vous plaît, Seigneur, donne-moi, Dieu dit, ma grâce suffit. Ça, c'est déjà difficile. Vous pouvez dire, oui, frère, c'est clair, c'est le principe, je comprends. D'accord. Mais si vous êtes gravement malade, ou un parent ou un connaissance est gravement malade, et vous priez au Seigneur, et le Seigneur n'enlève pas la maladie, c'est plus difficile à accepter. On peut le comprendre ici, mais ici, c'est plus difficile, non? D'accord, la maladie vient du diable, d'accord. Mais Dieu est quand même tout puissant, nous allons voir ça tout à l'heure, il est tout puissant. Pourquoi est-ce qu'il permet au diable? Et êtes-vous d'accord avec moi que souvent, on n'a pas de réponse. On constate, mais on n'a pas de réponse. Et je remarque que beaucoup de nos questions, donc, en tant que chrétien, beaucoup de nos questions qui commencent avec le mot « pourquoi » restent sans réponse. Les questions qui commencent avec « quand » souvent restent sans réponse. Dieu ne nous dit pas toujours, ne nous explique pas toujours ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Ce n'est pas seulement un problème de notre temps et que nous avons. Un des prophètes dans l'Ancien Testament qui n'est pas lu souvent et qui est un petit prophète, un court livre mais difficile à comprendre, c'est le prophète Habakkuk. Mais c'est Habakkuk. Habakkuk, au début de son livre, il demande ceci à Dieu, il dit, jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? J'ai crié. Tu ne coupes pas, J'ai crié vers toi à la violence. Tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? La querelle, la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Habacuc, nous te comprenons complètement, parce que ensemble, nous posons exactement les mêmes questions. L'arrière-plan n'était pas le même que notre arrière-plan. L'arrière-plan d'Habacuc, c'est de sa part, c'est les invasions répétées des Chaldéens qui venaient dans le pays, tuer, piller, dévaster le pays. Semble que rien ne pouvait les résister. Et le problème d'Habacuc, nous, les justes, les saints, Dieu, tu les laisses faire, ces Chaldéens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils nous détruisent. Ils nous persécutent. Et tu ne fais rien. Gédéon avait le même problème, ou problème similaire. Quand l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, vous savez comment il réagit. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Regardez autour de vous, Seigneur. Hein? Tu vois que dans l'état dans lequel nous nous trouvons, si Dieu est avec nous, on ne peut pas avoir tous ces problèmes. Il y a des églises qui pêchent qu'un chrétien n'a jamais un problème. Un vrai chrétien n'est jamais malade. Il vit toujours 100% dans la victoire. J'en veux rien, mais moi je suis convaincu que ces chrétiens-là, ces prédicateurs-là, ils ont une Bible de la mienne. Trouvez-moi un seul homme de Dieu ou femme de Dieu dans la Bible qui n'a pas été persécuté, qui n'a pas souffert. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? C'est pas difficile, n'est-ce pas? Si nous vivons pour Dieu, le diable ne nous aime pas. Nous n'apprenons rien en vous disant ça. Le diable ne nous aime pas. Si on ne veut pas avoir affaire avec le diable, tournons le dos à Dieu et allons vivre dans le monde. Ce serait beaucoup plus facile. Les théologiens cherchent des réponses, essayent de justifier ce que Dieu fait, qui, aux yeux des hommes, semble parfois ne pas être justifiable. Pourquoi tous ces pauvres réfugiés maintenant, à cause des guerres? Ils n'y sont pour rien, ils sont des innocents, mais ils souffrent. Et nos voisins, nos amis et notre famille qui n'est pas chrétien nous demandent où est-ce qu'il est, ton Dieu? Pourquoi est-ce que, soit, est-ce qu'il fait tout ça? Et puis, il dit, non, non, c'est pas lui qui le fait, c'est le diable. Ok, mais si ton Dieu est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il permet tout ça? Et sans que nous le voulons, et sans même que nous soyons capables de l'être, on essaye de nous obliger de jouer l'avocat de Dieu. Nous devons justifier Dieu dans des actions qui, même à nos yeux, ne sont pas justifiables. Et la question, pourquoi, reste. Vous savez, nous sommes la seule religion qui a ce problème. Un musulman n'a pas ce problème, un hindou n'a pas ce problème, un bouddhiste n'a pas ce problème. Eux, ils croient dans un Dieu qui se venge. Vous faites mal, ils vous tapent. Nous disons, non, Dieu est bon, il pardonne. Alors nous avons le problème, pour eux, il est normal que leur Dieu punit les méchants. Si un pécheur tombe malade, eh bien, c'est parce qu'il a péché, son Dieu, Dieu le punit. Nous, chrétiens, nous disons, non, 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 Dieu n'est pas comme ça. Nous n'attribuons pas la maladie, la souffrance, etc. à Dieu, nous l'attribuons au diable. Et c'est justement ça où nous avons un problème, parce qu'à partir du moment que nous affirmons que Dieu est bon et qu'il est tout puissant, alors pourquoi est-ce qu'il laisse le diable rendre des gens malades, des innocents tués, etc., alors que s'il est tout puissant, il a certainement le pouvoir de l'empêcher. Et qu'est-ce qu'en somme, qu'est-ce que nous disons? C'est très simple. Qu'est-ce que nous disons pas autant de monde, mais en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ceci. Si moi, j'étais Dieu, il dirait, si moi, j'étais Dieu, tous ces innocents ne mourraient pas. D'accord, hein? C'est ça qu'en somme, nous disons. Mais nous ne sommes pas Dieu. Ah. Et il n'est pas possible de jouer l'avocat de Dieu. La parole de Dieu ne nous demande pas d'être l'avocat de Dieu. Ce n'est pas possible de justifier des choses que nous aussi, nous trouvons injustifiables. Même contre la nature de Dieu. Bien sûr, ce sujet est immense. Il faudrait beaucoup d'études pour l'approfondir correctement. Alors je me limite juste à répéter quelques principes de base. C'est-à-dire, déjà mentionné ce soir, Dieu est souverain. Qu'est-ce qu'il veut? Deuxièmement, il n'a aucune obligation de s'expliquer. N'est-ce pas? Dieu n'a aucune obligation de s'expliquer à nous. Ni de se justifier, ni de se défendre. Et il n'a pas besoin de nous pour le défendre. Et le bottom line, comme disent les Anglais, la base, c'est que la base de notre foi n'est pas ce que Dieu fait, mais ce que Dieu est, qui Dieu est. D'accord, nous ne comprenons pas toujours ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Ou ce qu'il ne fait pas, ou pourquoi il ne le fait pas. Oh, on peut toujours dire, oui, mais Dieu, il a permis cela parce que il veut apprendre une leçon. Dites ça à quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer inguérissable. Vous êtes pire alors que les amis de Job, à ce moment-là. Ça ne nous dit rien. Bien sûr que Dieu peut nous apprendre une leçon. Et bien sûr que souvent nous avons besoin d'apprendre des leçons. Mais je refuse de croire en un Dieu qui dit, je vais lui apprendre une petite leçon, alors je vais permettre au diable de le frapper d'un cancer inguérissable. Ça n'est pas le Dieu que nous connaissons. Oui, mais l'apôtre Paul, il a quand même eu son écharpe dans la chair, et Dieu ne l'a pas enlevé parce qu'il voulait empêcher l'orgueil. D'accord? C'est pas un cancer inguérissable. Je pense qu'il faut quand même rester un peu les deux pieds sur terre. Ce qui est clair, c'est si les enfants de Dieu peuvent, et non seulement peuvent, ils le font, si les enfants de Dieu peuvent expérimenter la colère du diable, ce qui est clair, c'est que les enfants de Dieu n'expérimentent pas la colère de Dieu. Dieu ne verse pas sa colère sur ses enfants. S'il permet que nous souffrions, c'est pas par colère. On ne peut pas dire toujours quelle est la raison, mais la raison n'est certainement pas qu'il verse sa colère sur nous. Ce n'est pas ça. Dieu, quand il permet la souffrance, je pense bien, il a un but. Un but qu'il ne révèle pas toujours. Paul, il a su la raison. Mais Dieu lui a révélé. C'est pour que tu ne t'enorgueilles pas que j'ai permis. Mais souvent, la raison n'est pas révélée. Et à ce moment-là, nous marchons par la foi et non par la vue. Bien sûr, quand nous avons une écharpe dans la chair, ou quand nous avons maladie, si ou souffrance là, nous demandons à Dieu de nous l'enlever. Et merci Seigneur que souvent il l'enlève aussi. Mais pas toujours. Pas toujours. Et quand il ne l'enlève pas, il a une raison, il a un but. Et c'est par la foi que nous disons ça. Parce que nous ne voyons pas le but. Nous ne comprenons pas la raison. Et par la foi, nous pouvons aller beaucoup plus loin que par la vue. Et nous pouvons accepter des choses, même sans les comprendre. Nous faisons ça toujours dans la vie, non? Moi, je conduis une voiture. Si elle tombe en panne, j'ai un problème. Ça ne sert à rien d'ouvrir le capot. J'ai aucune idée de comment ça marche. Ce qui est le moteur, j'ai aucune idée. Ça ne m'empêche pas de conduire. Mon fils aîné, lui, il est automécanicien. Alors, si sa voiture tombe en panne, il sait le réparer. Différence entre lui et moi. Lui, il conduit par la vue et moi par la foi. Vous en avez compris. Et dans la vie, très souvent, il se passe des choses, nous ne les comprenons pas. Par la foi, nous continuons quand même. Nous les acceptons quand même. Sans comprendre. Ça, c'est la foi. Et c'est la foi en quoi? C'est la foi en Dieu. Nous disons, même si moi je ne comprends pas, ça n'a pas d'importance, lui le comprend. Quand on a des petits enfants, un enfant de 2-3 ans, on va traverser la rue, on dit au petit, donne-moi ta main. Et on traverse la rue avec le petit et on tient bien sa main. Le petit ne comprend pas pourquoi il va tenir notre main pour traverser la rue, parce que lui, il n'est pas encore conscient du danger. Mais il donne la main, et il traverse la rue, sain et sauf, parce que nous, nous avons pris la responsabilité. Et près de ce temps, nous ne comprenons pas ce que Dieu fait ou ce que Dieu ne fait pas. Nous lui donnons la main. Et nous ne devons pas nécessairement le comprendre. Nous mettons notre confiance en lui, comme le petit qui met la confiance en son père. Et nous mettons notre confiance en lui que si nous tenons sa main, on arrivera sain et sauf à l'autre côté, malgré tous les dangers. Les croyants ne sont pas destinés à souffrir la colère de Dieu. La loi qui compte n'est pas faite pour le juste. La loi qui condamne, c'est le contexte, hein, n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Dieu ne nous condamne pas si nous sommes justes. Jésus nous délivre de la colère à venir. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous n'expérimentons pas la colère de Dieu. La colère de Dieu est réservée aux pécheurs qui persévèrent et s'endurcissent dans leur haine, dans leur inimitié contre celui qui est assis sur le trône de son roi. Si quelqu'un, nous l'avons lu au chapitre 14, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. C'est clair, ceux qui suivent le diable, n'est-ce pas? Versez son mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte du siècle et des siècles. Ils n'ont repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête, son image, et reçoivent et quiconque reçoit la marque de son nom. La colère de Dieu est réservée à ceux qui refusent le Seigneur. Si nous nous laissons notre main dans la main du Seigneur, nous n'expérimenterons jamais la colère de Dieu. Maintenant, j'envoie ces croyants de la dernière heure, les derniers qui se convertissent au Seigneur, pendant la grande tribulation.
Et ce sont des gens qui se tiennent debout sur la mer de verre, ensemble avec les 144 000 juifs messianiques que nous avons vus déjà auparavant de toutes les tribus des fils d'Israël, ensemble avec une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, du peuple, langue, qui se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches, palmiers dans leurs mains. Et j'en dis maintenant, je vis comme une mer de verre, mêlée du feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arcs de Dieu. Nous avons déjà vu des arcs, n'est-ce pas, instruments d'adoration. Mais aussi instruments contre le diable. Hein? David chante et joue la harpe quand le roi Saül est tourmenté par un mauvais esprit. Et maintenant, je vais dire même de notre temps. Je pense qu'il est très important de louer le Seigneur avec des instruments et des chants, parce que malheureusement, non seulement nous venons à l'Église, mais le diable vient aussi. Et il veut perturber. Il veut perturber le culte, il veut mettre des pensées, des idées dans la tête des fidèles. Et chantons, nous louons Dieu avec les harpes. Ça peut être une harpe guitare, une harpe piano, ça n'a pas d'importance. Louer le Seigneur est très efficace contre le diable. Qui parmi nous n'a pas expérimenté ça quand nous sommes un peu d'âme, un peu dépris? Nous mettons un chant, un CD, où nous chantons nous-mêmes, ça nous lève l'esprit. Ils ont des arts de Dieu. Cette mer de verre, j'en ai déjà vu au chapitre 4. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Mais Moïse et ses compagnons ont déjà vu du pareil quand ils sont montés la montagne de Dieu pour recevoir les plans du tabernacle. Ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Du verre, on voit tout de suite s'il y a une santé, n'est-ce pas? On se voit tout de suite. Moi, dans mon petit salon, j'ai une table. C'est mon épouse qui a voulu qu'on l'achète. Mais le dessus est vert. C'est du vert. Mon épouse n'est plus là, c'est moi qui dois nettoyer. Mais qu'est-ce que c'est en fait, cette table? Parce que vous nettoyez au-dessus, et puis ça semble toujours ça, parce qu'il y a en dessous aussi. N'est-ce pas? Tout se voit! Mais ici, c'est transparent, pur, propre. Nous sommes au ciel. Intéressant, et je n'ai pas de réponse là-dessus, nous avons de nouveau un groupe de martyrs qui soudainement se trouvent au ciel, devant le trône, sans que l'Apocalypse nous dise comment est-ce qu'ils sont arrivés. Ils n'ont pas été enlevés avec l'Église parce que ils n'étaient pas encore sauvés. Ils n'ont pas été enlevés avec les 144 000 parce qu'ils viennent après. Donc, pendant la grande tribulation, il va y avoir encore au moins un enlèvement qui n'est pas commenté. Ça n'a pas d'importance. Sauf que, ça veut dire que même dans la grande tribulation, Dieu va sauver les vrais convertis, afin qu'ils n'expérimentent pas jusqu'au bout les terreurs de la grande tribulation. Je vis une mer de verre, et puis ça marquait mêlée du feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image, le nombre de son nom debout sur la mer de verre et en des arcs de Dieu. Donc, cette fois-ci, et ce n'est pas le cas dans le chapitre 4, cette mer de verre est mêlée de feu. Aussi symbole de, aussi bien de jugement que de purification.
Il chante, verset 3, il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. On chante beaucoup au ciel, je trouve. On chante vraiment beaucoup au ciel. Et cette fois-ci, on chante des chants comme une. Les autres chants dans le livre de l'Apocalypse sont des chants nouveaux. Ici, c'est le chant de Moïse et le chant de l'agneau. Chant de Moïse, après avoir traversé la mer Rouge, Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et ça continue encore, 18 versets plus loin. Mais quel est le cantique de l'agneau? Au moment qu'on le sache, du moins dans les quatre évangiles, il n'est marqué qu'une fois que Jésus a chanté. Peut-être qu'il a chanté beaucoup plus, sans doute, mais ce n'est marqué qu'une fois. Après avoir chanté les cantiques, c'est à la fin du Saint Repas, dans la chambre haute, après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Après avoir chanté les cantiques, comme c'était le repas de Pâques, on sait quel chant il chantait. C'était le chant que les Juifs appellent le Hillel, qui était en somme les psaumes 113 jusqu'à 118, et qui était divisé en deux. On chantait encore chez les Juifs les deux premiers, 113-114, au début du repas, et les psaumes 115 à 118 à la fin du repas. Aussi bien le cantique de Moïse que le Hallel chante de la justice et de ceux qui sont justifiés. La justice de Dieu et de ceux qui sont justifiés. Et c'est ça, cela est répété dans ce chant que Jean entend au ciel. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, voies des nations. Voyez, au ciel, on ne se pose pas de questions concernant la justice de Dieu. Parce que tout est clair. On y aura toutes les réponses là-haut, si on a encore besoin de réponses. Moïse et l'agneau, symbole de la loi et de la grâce. Les deux aspects de la justice de Dieu qui fait que, en contraste parfois à la justice des hommes, la justice de Dieu est toujours équitable. Loi et grâce. La loi défend l'adoration des idoles et le cantique de Moïse les condamne parce que le cantique de Moïse les félicite parce qu'ils n'ont pas adoré l'idole de la terre. Les vainqueurs chantent le cantique de l'agneau parce qu'ils ont reçu la force de résister à la bête par la grâce du Seigneur. Et la première partie de leur chant parle des œuvres de Dieu, et la deuxième partie parle des voies de Dieu. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Et les œuvres de Dieu montrent sa gloire, et sa grandeur, et ses voies, ses principes de grâce et d'amour et de justice. Amen. Je vais arrêter là, le temps va beaucoup trop vite, je trouve que votre horloge est un peu trop vite, mais beaucoup de gens ne savent pas. Enlever la pile. Que Dieu vous bénisse richement et Dieu voulant, nous continuerons la fois prochaine. Merci beaucoup.
Donc, la prochaine fois, ce sera le 22 avril, parce qu'au moment-là, il n'y a pas de sur l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est le vendredi de Pâques, c'est le vendredi du 3.